VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil
et Bagassi Koura.
Bonsoir. Grand point de l'actualité. Boko Haram s'empare d'une nouvelle localité au Nigeria où la région du Nord-Est a été encore une fois le théâtre de violences dimanche.
En RDC, retour au calme à Kinshasa, les marches de l'opposition prévues aujourd'hui n'ont pas eu lieu.
Nouvelle flambée de violence dans l'Est de l'Ukraine. L'OTAN annonce une session extraordinaire alors que Kiev et Moscou se renvoient les accusations.
Et vous n'aimeriez pas être ici, mauvais temps dans l'Est dans le Nord-Est des États-Unis où la météo a prévu des chutes de neige à proportion historique.
Le Congo et la Guinée équatoriale en quart de finale de la Coupe d'Afrique et aujourd'hui la RDC en piste pour sa qualification. Tous les détails dans le journal de la CAN.
Et nous aurons bien sûr notre page économie. Mais d'abord, le journal.
Le nord-est du Nigeria a été hier le théâtre de violences. L'armée est intervenue pour repousser une offensive de Boko Haram à Maïdougouri. En revanche, le groupe islamiste s'est emparé de la localité de Monguno. Jean-Roger Bion.
L'attaque a eu lieu sur deux fronts. Les assaillants de Boko Haram ont d'abord visé un faubourg de Maïdougouri, pendant que d'autres combattants attaquaient Monguno à quelques 130 km au nord-est. Cette localité est depuis hier contrôlée par les insurgés. L'armée, soutenue par une milice d'autodéfense, a repoussé l'attaque de Maïdougouri, fief historique de Boko Haram. Un avion et des hélicoptères ont même participé au combat. Il y a eu au moins 8 morts et 27 blessés, en majorité des civils. Le colonel Sani Ousmane, porte-parole de l'armée dans la région, a annoncé ce lundi la levée du couvre feu de 24 heures qui était imposé dans la capitale de l'État de Borno. Kashim Chetima, le gouverneur de l'État, a appelé les habitants à ne pas céder à la psychose. John Kerry, le secrétaire d'État américain, s'est arrêté hier à Lagos pour réaffirmer le soutien de Washington dans la lutte contre le terrorisme. Des élections générales sont prévues dans le pays le 14 février prochain.
En RDC, la situation s'est calmée dans la capitale suite à l'adoption de la loi électorale sans l'alinéa controversé à l'origine des violences de la semaine dernière. Les marches prévues par l'opposition à Kinshasa n'ont pas eu lieu, nous dit Eric Ambago, notre radio partenaire Top Congo FM.
Les activités reprennent progressivement à Kinshasa après une semaine de léthargie due à 3 journées de manifestations organisées par l'opposition pour protester contre le projet de loi électorale. Le projet de loi a été finalement modifié et a été adopté par les deux chambres du Parlement. Du coup, l'UDPS, qui avait projeté une marche ce lundi, l'a tout simplement annulée. Le secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi a justifié cet acte par l'apaisement observé dans la capitale après le vote de loi électorale par les deux chambres du Parlement. Pour l'heure, on parle de dialogue. Dialogue pour préparer les échéances électorales, dialogue pour lequel il y a divergence entre la majorité et l'opposition autour de la personnalité qui devrait convoquer ce dialogue. Pour l'opposition, c'est le patron de la MONUSCO qui devrait le convoquer, mais pour la majorité, c'est le président Joseph Kabila qui devrait convoquer ce dialogue. On est donc parti pour des discussions sur les préalables de ces discussions. Eric Ambago de Top Congo pour la Voix de l'Amérique.
Les deux fils de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak ont été libérés. Camille Gros-Didier.
Alaa et Gamal Moubarak ont quitté à l'aube lundi la prison Tora au sud du Caire, près de 4 ans après la chute du pouvoir de leur père, Hosni Moubarak. Ils ont été libérés sous caution en attendant leur nouveau procès dans une affaire de détournement de fonds publics. En première instance, ils avaient été condamnés à 4 ans de réclusion dans ce dossier, qui a également valu à leur père une peine de 3 ans de prison. L'ex-président est actuellement détenu dans un hôpital militaire. La Cour de cassation a ordonné le 13 janvier la tenue d'un nouveau procès pour M. Moubarak et ses deux fils. L'Égypte a commémoré dimanche le 4e anniversaire de la révolte de 2011, ont signalé près d'une 20aine de morts dans des affrontements avec la police.
En Centrafrique, 8 membres d'une délégation officielle ont été enlevés dimanche à Kagabandoro, dans le centre-nord du pays, selon l'AFP, qui rapporte l'information. Ils ont été libérés ce lundi par des membres de l'ex-coalition Seleka. Parmi les personnes enlevées figurent le maire de la ville de Kagabandoro et le sous-préfet de Mbré.
Voilà quelqu'un qui devrait répondre de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, a comparu ce lundi pour la première fois devant la Cour pénale internationale, rapporte l'agence France-Presse.
Leur liberté aura été de courte durée. Trois responsables de l'opposition nigérienne qui avaient été remis en liberté vendredi ont été à nouveau arrêtés le lendemain. Ces arrestations sont en lien avec les récentes manifestations violentes dans le pays, selon l'AFP, citant leur avocat.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Session extraordinaire ce lundi à l'OTAN pour discuter de la reprise des combats dans l'est de l'Ukraine. Les 28 membres de l'Alliance et un représentant de Kiev se réunissent à la demande du gouvernement ukrainien. Ce dernier dit avoir perdu 7 soldats dans les récents affrontements. 25 autres ont été blessés. Cette nouvelle flambée de violence intervient au lendemain d'une attaque à la roquette qui a fait au moins 30 morts et plus de 80 blessés dans la ville portuaire de Mariupol. L'OSCE, l'Organisation de la Sécurité et la Coopération en Europe, accuse les rebelles, ce que confirme le président ukrainien Petro Poroshenko.
En Syrie, les forces kurdes ont repris le contrôle de la ville de Kobané, limitrophe de la Turquie, après 4 mois de combat contre le groupe État islamique. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG basée à Londres, les Peshmerga ont pu repousser les djihadistes grâce à l'appui aérien de la coalition qui dirige les États-Unis. Entre-temps, des délégations syriennes sont à Moscou pour 4 jours de pourparlers visant à préparer une nouvelle conférence internationale de paix sur la Syrie. Le conflit qui a débuté en mars 2011 a déjà fait plus de 200 000 morts et 11 millions de réfugiés et de déplacés internes.
Le président Barack Obama poursuit sa visite en Inde. Il a été aujourd'hui le premier chef de l'exécutif américain à assister à New Delhi aux célébrations de la fête de la République qui commémore la première constitution de l'Inde indépendante. Hier dimanche, le président Obama avait annoncé une percée concernant un accord nucléaire indo-américain en panne depuis 2008. Barack Obama se rendra demain en Arabie Saoudite pour présenter ses condoléances à la famille royale saoudienne suite à la mort du roi Abdullah la semaine dernière.
Un petit drone au volant à basse altitude s'est écrasé dans les jardins de la Maison Blanche ce lundi, provoquant un renforcement des mesures de sécurité. La porte-parole du service secret, le service de protection présidentielle, a fait savoir qu'une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'engin qui, selon elle, est disponible sur le marché. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, qui accompagne le président Obama à New Delhi, a déclaré que l'engin ne semblait pas poser de menace au personnel. On ignore si les deux filles du président étaient dans le bâtiment.
Mauvais temps dans le nord-ouest, dans le nord-est des États-Unis, où un avis de blizzard a entraîné le retard ou l'annulation de 4000 vols aujourd'hui. Les communautés de la région se préparent au pire. Précision, Michel Joseph.
La météo prévoit de fortes chutes de neige et des vents violents dans toute la région, incluant New York et Boston. Ces deux villes pourraient enregistrer de 45 à 90 cm de neige. Du coup, c'est la mobilisation générale. Dans les États de Pennsylvanie, de New Jersey, New York et Connecticut, les écoles ont écourté leur journée ou n'ont pas ouvert du tout. Les hôpitaux ont fait appel à des agents additionnels. Ils s'attendent à un afflux de malades aux urgences, avec la fermeture presque certaine des cliniques et dispensaires où ces derniers se rendent habituellement. Les municipalités ont positionné en grand nombre les engins en vue de déblayer les routes et les rues au fur et à mesure que la neige tombe. Dans certaines, des mesures ont été prises pour limiter la circulation automobile durant cette période. C'est le cas dans le Connecticut où le gouverneur Dan O'Malley a invité ses administrés à éviter tout déplacement non nécessaire. En voyage en Inde, le président Barack Obama a été informé de la situation, a indiqué son porte-parole Josh Earnest. Par ailleurs, la Maison Blanche est en communication permanente avec les autorités des États qui seront touchés par le blizzard.
Voilà, les adversaires de l'austérité ont pris lundi les commandes en Grèce sous la houlette du nouveau premier ministre de gauche radicale Alexis Tsipras. Son alliance avec un parti de droite souverainiste pour gouverner laisse augurer de négociations difficiles avec l'Union européenne. L'Europe a d'ores et déjà prévenu Alexis Tsipras, âgé de 40 ans, qu'elle n'était pas prête à effacer la dette du pays dont le parti Syriza réclame la restructuration.
Et nouvel hommage à Charlie Hebdo et aux victimes des attentats du 7 janvier en France. Un ouvrage collectif paraîtra jeudi prochain sous le titre « La BD est Charlie », une référence au groupe BD du Syndicat National de l'édition en France. L'AFP précise qu'il comportera 183 dessins réalisés par 173 personnes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde. Aujourd'hui, place au sport.
Bienvenido a la cantina, bienvenido en bolo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Le verdict final ce lundi dans le groupe B et hier incroyable scénario dans le groupe A, le Congo et la Guinée équatoriale qualifiés pour les quarts de finale. Coup d'envoi à 18h, temps universel des deux derniers matchs du groupe B en simultané. La Zambie, dernière du groupe avec un point, affronte le Cap-Vert. Les deux équipes ont impérativement besoin d'une victoire pour accéder au quart de finale. La Tunisie, en tête du groupe avec 4 points, peut se contenter d'un match nul face à la RDC. Mais les Léopards voudront à tout prix se surpasser. On retrouve à Bata le reportage de Thierry Kambundi.
S'ils veulent poursuivre l'aventure dans cette CAN, les Léopards doivent absolument l'emporter face à des Aigles de Carthage à qui un nul suffit. Pour Florent Ibengue, sélectionneur de la RDC, son équipe va attaquer le match à 100 à l'heure.
On doit attaquer ce match pied au plancher et pour avoir un seul objectif, c'est la victoire. On n'a pas à calculer, c'est la victoire. On a mis en place un 4-3-3 et un 4-4-2, donc on va essayer d'utiliser les deux systèmes pour agresser cette équipe dans le bon sens du terme et ramener le résultat.
Le 11 congolais sera privé de son capitaine. Blessé face au Cap-Vert, Youssouf Moulumbu en a pour une semaine. Il espère revenir dans le groupe après la qualification que devraient arracher ses coéquipiers.
Au vu du scanner, donc je pense que d'ici une semaine, je pourrai jouer. Donc ça veut dire qu'il va falloir que mes coéquipiers gagnent face à la Tunisie. Comme ça, je pourrai rentrer dans le groupe et aider, pourquoi pas aller jusqu'en finale.
Dans le camp des Tunisiens, pas question de se considérer en situation favorable. On va jouer ce match pour le gagner, a déclaré le sélectionneur Georges Lekens.
On veut gagner ce match. Ce sont des matchs qui dépendent du temps, parfois la chance. Vous avez vécu ça avec votre équipe, avec le Congo. Vous êtes une équipe forte.
Depuis Bata, Thierry Kambundi Kafuti de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retour à présent sur les matchs du groupe A qui ont eu lieu hier. Le Nzalang National réédite l'exploit de 2012. Comme lors de la CAN organisée à domicile, les Équato-Guinéens se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Ils l'ont fait avec brio et grâce à leur impeccable gardien Ovono. Les Gabonais, eux, vont longtemps reparler du pénalty sifflé peu avant l'heure de jeu par l'arbitre ivoirien de la rencontre, Désiré Doué-Noumandier. Balboa transforme et quelques minutes plus tard, c'est Edou qui donne la victoire aux Équato-Guinéens 2-0. Les Panthères gabonaises disent adieu à la compétition. Grosse déception, vous l'imaginez, de l'attaquant Romaric Rogombe.
Sur ce pénalty, il n'y a jamais pénalty, rien. Un arbitre qui officie jusqu'à la Coupe du Monde ne peut pas siffler ce genre de pénalty. Maintenant, c'est des choses qui arrivent. On a encaissé un premier, il fallait pousser pour essayer d'égaliser. On a pris un deuxième, c'est le football.
Romaric Rogombe, attaquant gabonais. Autre sensation de la soirée à Bata, le Congo termine premier du groupe avec une nouvelle victoire, cette fois contre les vice-champions d'Afrique burkinabés. La tête basse, les étalons quittent la compétition. Tout s'est joué en deuxième mi-temps dans ce match. À la 51e minute de jeu, Bifouma inscrit son second but de la compétition. Bansé réussit à égaliser en toute fin de match, mais les Diables Rouges trouvent les ressources morales. Nguessi vient battre le portier burkinabé et donne la victoire aux Congolais. Score final 2-1. Cette statistique incroyable pour Claude Leroy, le sélectionneur du Congo-Brazzaville. C'est la 7e fois en 8 CAN qu'il franchit le premier tour. Un vrai sorcier blanc. Compte rendu de ce match avec Salif Kabore.
Comme en 2012, les étalons de Burkina Faso quittent la CAN 2015 avec seulement un but inscrit contre 4 encaissés en 3 matchs. L'entraîneur de l'équipe burkinabé dit avoir utilisé toutes les stratégies pour gagner le Congo-Brazzaville, mais hélas, Paul Put.
C'est toujours, tu le sais, tu es dans une position faible. Tu commences un match pour le Congo, un match nul, c'est assez. Nous, on doit gagner. Alors ça joue dans la tête des joueurs aussi, mais je pense qu'on a gelé le premier mi-temps. On a crié quelques occasions, mais on doit dire aussi on n'a pas eu la chance. Les joueurs qui étaient les meilleurs buteurs, ils ne sont pas dans leur niveau non plus.
Le joueur burkinabé Alain Sibri Traoré, qui a joué les 3 matchs pour son équipe, se finit ici.
J'ai fini les 3 matchs sans se blesser. C'est déjà un point positif pour moi personnellement. J'ai apporté un plus, j'ai essayé de donner le meilleur de moi, mais ça n'a pas suffi.
Le Congo-Brazzaville en quart de finale est une grande satisfaction pour son entraîneur Claude Leroy.
Le match a été intense physiquement, on le savait, on avait aussi mis l'accent dessus. On se sentait prêt à répondre à ce niveau-là. Et c'est surtout l'intensité psychologique avec au bout une place en quart de finale. Ce qui n'est pas négligeable, on va se faire un plaisir de revenir également sur Bata.
À Ebibéyin, en Guinée équatoriale, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
C'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition demain matin dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site internet voafrique.com.
Merci Nicolas Pinault pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, c'est un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs aujourd'hui avec Jacques Aristide.
Oui, bonsoir Jacques.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Alors on commence par cette nouvelle liée à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Conséquences limitées sur l'économie du continent.
C'est du moins l'avis du secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, tel que rapporté par l'AFP. Carlos Lopez a déclaré sans embâge à Addis Abeba qu'il y a eu des pronostics inquiétants sur l'impact d'Ebola. Mais d'après lui, ces prédictions sont fausses. Bref, pour le responsable onusien, même si l'épidémie d'Ebola va durement éprouver les économies du Libéria, de Guinée et du Sierra Leone, elle n'aura que peu d'impact sur l'économie africaine dans son ensemble, d'autant que les trois pays touchés ne représentent que moins d'1% du PIB du continent, et d'ajouter que ces pays auront tout de même besoin d'un allègement de dette pour se remettre. Fin de l'année dernière, la Banque mondiale avait averti que l'Ebola pourrait avoir un impact économique catastrophique dans les trois pays concernés, avec un net recul de leur croissance et des pertes de plus de 800 millions de dollars dans l'année en cours.
Au Cameroun, Boko Haram fait perdre 500 millions de dollars de recettes douanières.
Un chiffre qui concerne l'année écoulée, qui vient d'être révélé par les autorités camerounaises dans le cadre de la Journée mondiale des douanes marquée ce lundi 26 janvier. L'administration douanière du Cameroun précise que les recettes douanières collectées dans la région de l'extrême nord du Cameroun ont chuté d'un peu plus d'un milliard de francs CFA à cause de la secte terroriste Boko Haram.
Voilà, et rendez-vous important pour les investisseurs africains en perspective.
Les 2 et 3 avril prochains, Casablanca va abriter la troisième édition de Hub Africa avec pour thème cette année « Croire en l'Afrique, investir en Afrique ». Il s'agit d'un rassemblement où l'investissement et l'entrepreneuriat seront donc à l'honneur.
Voilà, merci Jacques Aristide pour la Minute Éco.
Chez Robin Dorcil et Bagassi Koura, en votre compagnie pour cette édition du 26 janvier 2015, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le Parlement a trouvé dimanche un compromis et a voté une loi électorale qui ne conditionne plus la tenue des élections de 2016 au référendum et à l'identification. Le calme est donc revenu à Kinshasa et dans d'autres villes du pays après les violences qui ont causé plus de 40 morts. Lundi, les manifestations appelées par l'opposition n'ont plus eu lieu. La tempête est-elle désormais passée? Pour répondre à la question, Eddie Isango a joint ici aux États-Unis un analyste politique et spécialiste en administration publique, Jean-Aimé Bondo.
Dire que la tempête est passée, ça sera de se faire des illusions, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a le calendrier électoral que tout le monde attend. Et je crois que même les gens qui sont les tenants du pouvoir actuel doivent faire attention. Si le peuple n'a pas réagi aujourd'hui, vous savez que d'abord, il y avait l'appel, la mobilisation de l'Église catholique qui n'a pas eu lieu. Alors, parce que tout le monde était focalisé sur ça, alors penser que la tempête est passée, ce sera de se faire des illusions. C'est un calme apparent, mais tout peut basculer à tout moment.
Et comment vous expliquez ces calmes? C'est juste parce que les deux chambres du Parlement ont convenu sur un même texte de projet de loi électorale?
Oui, en fait, parce que le peuple s'allie était que non, il fallait empêcher à tout prix qu'il n'y ait pas glissement des élections à venir. Que les élections aient dans les temps prévus par la Constitution, donc les élections doivent avoir lieu 90 jours avant l'échéance du mandat actuel du président. Et c'est alors, si y a seulement une dépassement même d'un mois, c'est ce qu'on appelle glissement. Alors, le peuple n'est pas d'accord avec soi, parce qu'ils ne veulent plus encore que les tenants actuels du pouvoir, spécialement M. Kabila, qui reste le plus longtemps possible au pouvoir. Le peuple voudrait qu'il y ait un changement alternatif au pouvoir. Et c'est ce qu'on pense que le peuple était focalisé sur ça. Et comme cela est passé, mais donner le temps au peuple d'analyser encore la loi en profondeur et voir s'il n'y aura pas d'autres choses qui peuvent encore bloquer ou amener à ces glissements.
Que va-t-il se passer? Kabila ne s'est pas prononcé officiellement s'il se représentera ou pas.
Oui, en fait, il n'a même pas se prononcé. Stratégiquement, Kabila ne peut pas se prononcer. Pas s'il se prononce, même les paix des pouvoirs qu'il a, ils n'ont plus ça. Mais je crois que c'est tout à fait logique qu'il garde son silence et qu'il ne dit rien sur ça, mais qu'il continue continuer à travailler jusqu'à la fin de son mandat.
Mais que va-t-il se passer? Va-t-il se présenter ou pas? Est-ce que cette loi est suffisante pour l'empêcher de se représenter comme le pensent ses adversaires?
À mon humble avis, il n'a même pas le droit de se représenter parce que la Constitution ni la loi ne lui donnent même pas cette autorisation-là, ni le pouvoir de se représenter. Les gens qui sont au pouvoir, ils doivent être attentifs réellement à la volonté de la population. Les élections peuvent avoir lieu s'ils ont la volonté politique de les organiser. Mais s'ils veulent qu'il y ait encore des troubles, les élections n'auront pas lieu. Les problèmes de moyens financiers, on les a demandés par la communauté internationale de donner le calendrier et ils peuvent trouver des moyens. Mais s'ils ne veulent pas, s'ils veulent entretenir le flou, donc il y aura encore des troubles dans les jours à venir.
Jean-Aimé Bandeau, un analyste politique, joint ici aux États-Unis par Eddie Isango.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum, ce jeudi, décryptage de la situation en République démocratique du Congo après les violences meurtrières autour d'un projet de loi électorale controversé. Des Congolais sont descendus dans la rue pour dire non à un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila. Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Au Tchad, le mouvement populaire du Salut, ou MPS, parti au pouvoir, semble traverser une zone de turbulence. Ainsi, la session du Conseil national du Salut, sorte de parlement du parti qui s'est ouverte hier dans la capitale tchadienne, s'est mis aujourd'hui en conseil extraordinaire. Pour faire le point, Timothée Donangmaye a joint à N'Djamena Michael Didama, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Temps, qui évoque certains des problèmes auxquels est actuellement confronté le MPS.
D'abord, la démission de l'ancien premier ministre du parti, M. Joseph Dadnadi, qui était quand même le poids lourd du parti et qui a quitté le parti dans sa lettre de démission. Il a qualifié le parti de monstre pris en otage par des clans mafieux. Et en plus de ça, il y a un certain bicéphalisme qui s'est instauré entre le collège des fondateurs et le secrétariat général. Donc, je vois que le parti est. Devait résoudre toutes ces questions, surtout que nous approchons des grandes échéances électorales avec les présidentielles en 2016 et les législatives.
On a vu des situations où le président Idriss Déby Itno a été amené à désavouer sa majorité au Parlement, notamment dans l'affaire du code pastoral. Comment peut-on expliquer de telles situations où le chef du parti n'est pas d'accord avec la base?
Les choses ont beaucoup changé, l'environnement international, la situation sociale intérieure, les difficultés qui semblent s'annoncer sur le plan économique en 2015 avec la chute du taux du baril. Donc tout cela fait que l'année 2015 va être difficile sur beaucoup de plans. Je pense que le chef de l'État prend la mesure de toute cette situation, surtout qu'à l'intérieur de son parti, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits. L'exemple, par exemple, de Bernadi qui ne se retrouve plus dans ce parti, qui pour lui représentait un certain idéal. Donc je pense que c'est pour mettre fin à tout ça et surtout pour couper l'herbe sous les pieds de beaucoup de personnes que le chef de l'État a pu amener les choses.
À quoi faut-il s'attendre à l'issue de ces travaux?
Bon, on s'attend sûrement à ce que les partis réduisent la voilure au niveau du Conseil national et sûrement qu'ils trouvent une solution de cette histoire de bicéphalisme à la tête du parti. Et également, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réclament la tête du secrétaire général et qui devient en fait le bouc émissaire dans cette situation. Donc, je ne serais pas surpris si à l'issue de cette assemblée générale, on coupe la tête du secrétaire général et on puisse aussi faire partie de certaines personnes, surtout ramener certains mécontents. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements importants au sein de la direction du parti et même de la ligne directrice du parti.
Voilà, c'était Michael Didama, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Temps.
Barack Obama, invité de marque pour la fête nationale de l'Inde, au second jour de sa visite d'État, au deuxième jour de la visite. Mais il a écourté cette visite pour se rendre en Arabie Saoudite. Claire Morin-Gibourg.
En visite jusqu'à mardi à New Delhi, Barack Obama est le premier président américain en exercice à être l'invité d'honneur du défilé qui célèbre chaque 26 janvier l'entrée en vigueur de la constitution post-coloniale de l'Inde de 1950. Barack Obama et son épouse Michelle ont été accueillis sous une fine pluie par le premier ministre Narendra Modi pour assister à la parade. New Delhi a été placée sous haute sécurité. Au premier jour de sa visite, visite de 3 jours, M. Obama a annoncé un accord important.
Today we achieved a breakthrough understanding on two issues that were.
Aujourd'hui, nous avons accompli une percée sur 2 questions qui bloquaient notre capacité à progresser dans notre coopération nucléaire et nous sommes engagés à aller de l'avant vers la pleine application et c'est un pas important prouvant que nous pouvons travailler ensemble et améliorer notre relation.
Les États-Unis avaient signé en 2008 un accord avec l'Inde pour lui fournir une technologie nucléaire civile. Mais sa mise en œuvre a été bloquée par une loi indienne qui, en cas d'accident, rendait responsable la compagnie qui construit et fournit l'équipement. Dans la soirée d'hier, il était l'hôte du président indien, Pranab Mukherjee, qui a levé un toast pour célébrer le réchauffement dans les relations.
Ladies and gentlemen,
Mesdames et messieurs, je vous demanderai de me joindre pour un toast pour la bonne santé de Son Excellence le Président Obama et Son Excellence Madame Michelle Obama pour une longue prospérité et le bien-être des États-Unis et pour créer une étape décisive qui va renforcer davantage l'amitié et la coopération entre l'Inde et les États-Unis.
Après la parade, M. Obama s'est adressé à un forum d'hommes d'affaires américains et indiens. Le Premier ministre Narendra Modi a promis de faciliter la vie des entreprises étrangères, s'engageant devant les patrons américains et indiens à lever les obstacles jugés encore trop nombreux par Barack Obama. Le président américain devait visiter le Taj Mahal mardi, mais il a annulé cette étape pour se rendre en Arabie Saoudite en vue de présenter ses condoléances après le décès vendredi du roi Abdallah. Il va rencontrer le nouveau roi Salman qui veut profiter de sa brève visite à Riyad pour pousser Washington à s'impliquer davantage dans le règlement des crises qui secouent la région, notamment le groupe État islamique et la crise au Yémen. Il est très probable que l'Iran soit également évoqué.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au menu de la bonne musique pop américaine, le classement officiel des ventes de singles et titres aux États-Unis. Aussi notre sujet de cette semaine dans le RM Show, selon vous, c'est quoi la démocratie? Les pour et les contre de la démocratie. Mais on en parlera toute cette semaine avec nos invités dans le RM Show. Nous lirons vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Pour participer en live, appelez-nous aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au 001-202-619-3140. Je répète, 001-202-619-3140. Peace Africa!
Bagassi Koura et Chérubin Dorsil en direct à Washington. À la une ce soir.
En Centrafrique, 8 membres d'une délégation officielle enlevée dimanche à Kaga-Bandoro dans le nord, centre-nord du pays ont été libérés ce lundi par des membres de l'ex-coalition Séléka.
3 responsables de l'opposition nigérienne qui avaient été remis en liberté vendredi ont été à nouveau arrêtés. Ces arrestations sont en lien avec les récentes manifestations violentes dans le pays.
Dominique Ongwen, l'un des principaux chefs de la rébellion ougandaise de la LRA, comparaît aujourd'hui pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
Session extraordinaire ce lundi à l'OTAN pour discuter de la reprise des combats dans l'est de l'Ukraine. Kiev dit avoir perdu 7 soldats dans les récents affrontements. 25 autres ont été blessés.
Et puis en Syrie, les forces kurdes ont repris le contrôle de la ville de Kobané, limitrophe de la Turquie, après 4 mois de combat contre le groupe État islamique. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Je ne sais pas quel temps il fait là où vous êtes, mais ici aux États-Unis, surtout dans la région du Nord-Est, ça ne va pas du tout, Bagassi Koura.
Oui, ça ne va pas du tout. Donc, il y a un blizzard de proportions historiques avec 4000 vols annulés aujourd'hui. Les communautés de la région se préparent au pire.
Heureusement que ce n'est pas tellement grave ici à Washington. La mise en onde était assurée par Georges Léonard Sagnon, assisté de Robert Wagner à la technique, à la présentation Bagassi Koura et Chérubin Dorsil. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.